Bienvenue, merci d'avoir répondu à cette invitation un petit peu bizarre, hein. Le mariage de Jésus, étonné, convaincu, qu'est-ce que vous en pensez? Pour introduire cette soirée et laisser la parole à l'orateur de ce soir, je voudrais juste reprendre un extrait qui se trouve sur la couverture d'un des livres qu'il a écrit, qui paraît aux éditions Clés et qui s'appelle « Le mariage de Jésus » et on y lit ceci. Le mariage de Jésus, on en a beaucoup parlé lors de la sortie du Da Vinci Code. On en reparle de nouveau aujourd'hui, depuis la découverte en 2012 d'un petit fragment de papyrus qui est écrit en ancien copte et où Jésus parlerait de sa femme, de son épouse. Alors, Jésus, il fascine. Chaque aspect de sa vie, chaque parole qu'il a prononcée, elle fait l'objet de nombreuses discussions. Il y a des sectes qui s'en réclament. Il y a des dizaines de films qui retracent sa vie. Divers auteurs vantent ou attaquent son message. Le Dalai Lama le commente, un de ses plus grands discours, un de ses plus grands sermons. Des rabbins reconsidèrent sa contribution. Le Coran enseigne son retour. Et maintenant, il y a des romanciers, des films, des livres qui l'intègrent dans leurs intrigues. Une nouvelle idée fait petit à petit son chemin. Jésus n'a pas vécu comme le dit l'Église. Talentueux et charismatique, c'était un homme ordinaire, marié avec Marie-Madeleine, intox, scoop, désinformation. Où commence la fiction? Alors les évangiles ont-ils vraiment été trafiqués? L'Église a-t-elle sciemment éliminé les témoignages du mariage du Christ? Alors voilà, c'est de ça que Florent Varac va nous parler ce soir et je suis très heureux d'accueillir Florent Varac parce que je le connais aussi un peu mais souvent pour l'avoir entendu et c'est bien de le voir en chair et en os et de pouvoir l'entendre ce soir. L'orateur de ce soir, c'est un pasteur qui était pasteur pendant 25 ans d'une église dans la région lyonnaise. Mais c'est quelqu'un qui a une maîtrise en théologie, c'est quelqu'un qui est chargé de cours à l'Institut biblique de Genève et qui a écrit plusieurs ouvrages. Il est marié, il est père de 3 enfants. Actuellement, il s'occupe de l'implantation d'une église aussi dans l'Ain. Et il s'occupe aussi d'entourer des missionnaires, des pasteurs dans leurs activités, dans le cadre d'une certaine mission. On dira comme ça. Alors, on va te laisser la parole, Florent. Bienvenue, on t'écoute.
Merci. Bonsoir. Alors, vraiment heureux d'être dans le pays de la bière. Je suis obligé de le dire. Mais même si je n'en ai pas encore goûté de la bière belge d'ici, mais on m'a promis que ça viendrait pendant mon séjour. En tout cas, merci de votre accueil, de votre confiance aussi. Je suis conscient qu'il y a plusieurs manières de passer un mercredi soir. On est jeudi en fait, jeudi soir, c'était une longue semaine déjà, mais il y a plusieurs manières de passer un jeudi soir et que vous ayez choisi de venir dans une église, peut-être dans une église que vous ne connaissez pas, pour parler d'un thème qui est un peu surprenant. Je trouve que c'est chouette et j'espère que ça vaudra le déplacement et que vous en aurez pour votre argent, parce qu'on n'a pas parlé d'argent, j'ai remarqué, et je crois que c'est entièrement gratuit, c'est ça? Je me trompe? Bon alors ça va. Et on parle donc du mariage de Jésus. Je suppose que le thème a été particulièrement important pour vous, puisque vous êtes là, et notamment grâce à un film et également un livre. Vous reconnaissez, n'est-ce pas? Vous l'avez lu? Qui a lu le roman Da Vinci Code? D'accord, je ne prends pas de notes, hein, d'ailleurs je ne vous connais pas, donc je ne mets pas de photos sur Facebook. Qui est allé voir le film? D'accord, quelques-uns, pas tous en fait, hein. Ça a été un raz-de-marée. Moi je me souviens quand c'est sorti le livre, je prenais le métro à Lyon et je voyais des gens mais collés sur le livre. C'était assez impressionnant et ça se lit assez bien, assez vite. Moi j'ai eu la chance de passer du temps en Californie et avec un ami qui travaillait dans le parc et dans l'entreprise de Universal Studios. Et il nous a fait une visite guidée de ces lieux. Et j'ai donc pu voir le bureau de Ron Howard qui a réalisé le film Da Vinci Code. C'est peut-être pas l'information la plus importante ce soir. Mais je voulais juste vous montrer, c'est là où il bosse. D'accord? J'y étais. Voilà. J'ai pas osé frapper à sa porte, c'est interdit. Mais c'est en tout cas une conception qui est devenue internationale avec ce film et qui a suscité bien des intérêts, bien des interrogations. bien d'autres livres et des réflexions. Et la question qui nous préoccupe ce soir, c'est de savoir si la thèse qui est évoquée, c'est de l'ordre du roman, du style Harry Potter, et auquel cas, finalement, vous avez eu tort de venir, parce que si c'est du roman, c'est pas intéressant d'en parler. Ou bien, si c'est de l'ordre du documentaire, du style La Marche de l'Empereur. Si vous l'avez pas vu, c'est à voir, c'est un beau documentaire sur les pingouins. Enfin, faut aimer, hein, mais voilà. et la question se pose parce que, justement, le problème du Da Vinci Code, dans son film comme dans son livre, c'est qu'il propose un mélange qui est à la fois de l'information issue de l'histoire et puis de l'imagination d'un auteur. Et moi, je suis pour l'imagination, je suis pour la créativité, mais parfois, et c'est tout le problème de ces ouvrages qui ont fait qui ont mené cette charge, en quelque sorte, sur la personne de Jésus, c'est qu'on ne sait pas trop ce qu'il est, ce qu'il en est des faits et ce qu'il en est de l'imagination de l'auteur. Et quand on regarde cette fiction, elle a été très influente. Alors, si vous lisez pas tout le détail de ce que je vous présente, c'est pas grave, parce que c'est vraiment des supports simplement de ce que je vous dis, mais après le film et le livre, pour vous, Marie-Madeleine était-elle l'épouse ou la maîtresse de Jésus-Christ? On est passé de 10% de gens qui en étaient convaincus à 25%. Et grosso modo, un bon tiers de la population se dit, mais finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et je vous rassure, si vous êtes là avec cette conviction, il n'y a aucun souci, on a le droit d'avoir des idées différentes. Moi, j'ai un exposé qui va durer 3 heures, et après, je plaisante. J'ai vu soudainement un bouffet de chaleur, là. Demi-heure, 3 quarts d'heure, ça ira. Et puis après, on aura tout le loisir d'en discuter. Vous avez le droit de ne pas être d'accord, évidemment, dans la mesure où on peut, j'espère, en parler de façon civilisée, et qu'on puisse avoir un dialogue et échanger de façon paisible. Je dois aussi vous dire une chose. Cette perspective était la mienne pendant toute ma jeunesse. J'ai grandi dans une famille passionnée d'ésotérisme. Quand je rentrais chez moi, j'étais haut comme une pomme à genoux de l'école, et il y avait dans le hall un immense Bouddha en or avec de l'encens qui régulièrement montait devant la statue. Ma mère avait fait des caches en forme hindoue aux fenêtres pour donner un peu la couleur locale. Donc j'ai vraiment grandi dans cette perspective, et je vous montrerai aussi des livres bien plus anciens qui évoquaient ce dont on parle ce soir. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Ce soir, on va déjà regarder la personne de Marie-Madeleine, on va regarder son portrait, en parler tel que les médias en parlent, les médias d'avant, et puis aussi tel que la Bible en parle, parce qu'après tout, il faut quand même s'en préoccuper un petit peu. Et puis ensuite, on explorera la question de Marie-Madeleine plus Jésus. Est-ce que c'était le grand amour? Est-ce que c'est vraiment une piste qui est fiable? On regardera pourquoi les gens en parlent de cette manière, comme étant réellement un fait historique. On regardera les sources, on va les analyser, on parlera de la théologie, des témoignages. Puis on se préoccupera du « et alors ?» Ça change quoi? Ça change quoi un Jésus marié, après tout? Ça change quoi un Jésus qui aurait pour maîtresse Marie-Madeleine? Et ce sera là-dessus que je conclurai. Il y a du matériel supplémentaire pour ceux qui auraient des questions sur ce que j'ai évoqué. Mais on n'est pas obligé d'aborder ce point-là. Ce sera à votre convenance et selon votre intérêt. Ça va comme ça? Ça me rassure, parce que c'est comme ça que j'avais préparé les choses. Si vous m'aviez dit non, j'aurais été mal. Je serais reparti sur Lyon assez vite, finalement. Donc, je vais vous inviter à un petit voyage dans le monde de l'art. Je suis pas un spécialiste, mais on va regarder quelques tableaux de Marie-Madeleine. J'espère que je choque personne. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu difficile d'être choquant quand même avec des images comme ça, mais Titien, 16e siècle. Je le connais pas, mais c'est son nom en bas. Je vous avais prévenu que c'était pas mon domaine, les arts. Domenico Fetti, 17e. Pardon, excusez-moi. Ah, plus contemporain. Monica Bellucci. Qu'est-ce que vous remarquez dans ces peintures? Comment est représentée Marie-Madeleine? Souffrante. Alors peut-être ici, oui, parce que c'est peut-être pas la bonne photo que j'ai prise, parce que c'est le moment un peu poignant du film. Mais dans les images que vous venez de voir, qu'est-ce que vous reconnaîtriez comme qualité à cette femme?
La sensualité.
Indéniable. Sensualité. Quoi d'autre? Belle. Belle, beauté. Hein? C'est... Jeune. Jeune, belle et sensuelle. Ça se vend bien, hein? Ça se vend bien dans tous les âges, finalement. Et même, je trouve, je regardais cette photo d'un peu plus près. Je ne sais pas si vous regardez, vous remarquez ce qu'elle regarde là? Non? C'est pas un vase. Si je vois bien, c'est un crâne. Bon, c'est un peu dépixelisé, hein, mais vous regarderez peut-être là, sur Google quelque chose de plus. C'est un crâne. Pourquoi? Comme s'il était dans un face-à-face avec la mort. Parce que dans toute sa beauté, sa sensualité, elle est confrontée à un autre problème. Et c'est un problème qui nous vient justement d'une association assez étrange qui a eu lieu à partir des textes de l'Écriture. Si vous regardez la Bible, alors je ne sais pas si vous lisez la Bible, moi je l'ai découverte et je trouve ça génial, mais au chapitre 7, il y a l'histoire d'une femme qui est prostituée. Et cette femme, donc le chapitre 7 de l'évangile de Luc, si jamais c'est pour moi, je suis juste occupé, enfin pardon, dans l'évangile de Luc, donc au chapitre 7, il y a cette femme prostituée qui vient voir Jésus, et elle est tellement touchée par la grâce qui émane de la personne du Christ, par l'accueil, elle pleure, elle mouille de ses larmes les pieds de Jésus. C'est une scène vraiment touchante, surtout que Jésus est un peu à ce moment-là entre le marteau et l'enclume, il est pris entre deux feux, les gens critiquent ce qu'il est, les religieux trouvent qu'il va trop loin dans l'accueil des gens qui ont des vies mauvaises, trop en décalage par rapport aux traditions du judaïsme. On ne sait pas trop qui il est, Jésus. Et là, voilà qu'il y a cette femme qui manifeste envers lui des marques par sa repentance, des marques d'affection et de respect. Elle reste à ses pieds, elle pleure sur ses pieds. Prostituée qui se repent, qui change de vie. Ça, c'est le truc qui m'a bluffé, parce que l'Évangile... Moi, je croyais que c'était une religion, le christianisme. Et une religion avec du sang sur les mains, avec les croisades et autres. Et moi, j'ai découvert que le christianisme, c'était une relation avec Dieu qui changeait la vie. Et ça m'a vraiment touché. Et c'est ce que... Alors, je n'étais pas prostituée, mais cette prostituée-là, elle rencontre Jésus. Elle voit un Dieu qui donne une nouvelle chance, un pardon, un renouveau. Quel est le lien avec ce dont on parle? Ben, le lien est le suivant, c'est que tout de suite après, au chapitre 8, on nous présente Marie-Madeleine. D'accord? Donc, il y a une femme, prostituée au chapitre 7, qui se repent, qui change de vie, qui pleure sur les pieds de Jésus. Et au chapitre 8, il nous est présenté Marie-Madeleine, qui est délivrée de plusieurs démons. Et en fait, c'est au 7e siècle que Grégoire le Grand, qui est pape à l'époque, c'est au 7e siècle que dans un sermon, il émet l'hypothèse, qui devient vite l'affirmation, que ce sont les mêmes femmes. C'est-à-dire que la femme prostituée qui se repent et qui vient aux pieds de Jésus, qui pleure et à la fois qui est bouleversée par la dignité de l'accueil de Christ, c'est la même qui nous est présentée juste quelques phrases plus loin, au chapitre 8, sous le nom de Marie-Madeleine. Et cette idée va rester un peu comme « Ah ben oui, bon sang, mais c'est bien sûr ». Et au fil du temps, Marie-Madeleine, c'est une ancienne prostituée et c'est une femme qui a un rapport assez particulier avec Jésus. Alors quand on fait l'ensemble des remarques de ce que la Bible dit de cette femme, Marie-Madeleine, on apprend qu'elle est libérée de démons, qu'elle fait partie de la logistique, parce qu'il faut vous imaginer Jésus qui voyage en Israël, avec 12 hommes, parfois colériques, parfois complètement perdus, et souvent ayant faim. Parce que les hommes, ça mange 3 fois par jour. Aujourd'hui, peut-être à l'époque un peu moins. Et donc, il y a tout un groupe de dames, littéralement, qui les accompagnent et qui s'occupent de l'intendance. C'est comme ça que Luc nous présente cette équipe qui accompagne Jésus et les apôtres, dont fait partie Marie-Madeleine. Elle est présente à la crucifixion. Et je dois dire, c'est une marque de courage. D'ailleurs, dans l'Évangile, il n'y a que les femmes qui sont courageuses. Enfin, je suis désolé hein, pour nous, les messieurs. Mais nous, on est partis. Nous, on n'aime pas la croix. Enfin, c'est juste trop gore. Il n'y a que des femmes. Elle fait partie de celles qui sont là, à la croix. Peut-être elles risquaient moins, je ne sais pas. En tout cas, elles ont le courage d'être présentes et d'afficher leur relation avec Christ. Elle est la première témoin de la résurrection. Alors, si vous ne croyez pas à la résurrection, ce serait une très bonne question à poser tout à l'heure. Je trouve que c'est l'un des faits les plus historiques de l'histoire, de l'Antiquité. Bref, elle est la première témoin de la résurrection, ce qui lui place, enfin, qui lui confère un rôle, enfin, imaginez, enfin, moi je discutais avec mes parents, ils sont pas du tout dans la foi, je les aime beaucoup, on a de bonnes relations, etc., mais je disais à ma mère récemment, mais, parce qu'ils s'intéressent beaucoup à Christ, ils sont à fond dans Jésus marié, enfin, c'est très intéressant à discuter avec eux, et je disais, mais tu te rends compte que si Jésus est ressuscité, ça change tout. À me dire, mais effectivement, si Jésus est ressuscité, ça change tout. Vous imaginez, on va tous mourir. Je suis désolé, hein. Je viens de Lyon, je repars vite, hein, mais c'était la mauvaise nouvelle du soir. Hein. On va tous mourir. Et si Jésus est ressuscité, alors ce qu'il dit est quelque chose qui ouvre une espérance extraordinaire. Quand il dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. C'est incroyable. Enfin, je veux dire, moi qui suis pasteur, j'étais auprès de situations où on se dit la mort c'est terrible quoi. Bref, elle est la première témoin de la résurrection. Il y a quelque chose d'assez formidable dans son rôle. Et puis il y a cette nouvelle idée qui fait son chemin, et l'idée c'est que Marie-Madeleine et Jésus étaient intimes. Vous avez peut-être reconnu le film La Dernière Tentation de Martin Scorsese, qui a fait scandale à l'époque. Maintenant, on est habitué au scandale, donc ça fait plus trop de vagues quand il y a des choses comme ceci. Mais on présentait Jésus et Marie-Madeleine dans des rapports un petit peu ambigus. Plus que ça, d'ailleurs. Mais il faut savoir que c'est du déjà-vu. Hein. Moi, à 16 ans, je crois, 15-16 ans, j'ai lu L'énigme sacrée, 16-17 ans, écrit par deux journalistes qui retenaient la thèse que, en fait, Jésus et Marie-Madeleine étaient amants, et puis après la fausse mort de Jésus, parce qu'en fait l'air frais de la tombe l'a ranimé, et lui et Marie-Madeleine ont pris un bateau et sont arrivés où? Vous avez lu ce livre? À Aix-en-Provence, bien sûr. Et ensuite, ils sont remontés, c'est que là où on peut aller, et puis à Aix-en-Provence, ils ont fondé une famille qui est devenue l'origine du sang bleu, sans mérovingien, nous les Français, nous ne pouvons pas concevoir que ce soit autre chose, n'est-ce pas? c'est une blague, hein, sur la. Mais c'est l'idée qu'il cherche à démontrer. Il faut savoir que les deux journalistes qui sont l'auteur de ce livre ont porté plainte contre Dan Brown parce que Dan Brown a piqué toutes leurs idées. Le scénario se construit sur le livre de ces deux personnes. Ça se lit de façon assez fascinante. Et c'est remis à différentes sources. J'ai parlé de Dan Brown, je n'en reparle plus. Mais plus récemment, il y a le livre « L'ultime secret du Christ » qui est sorti, qui témoigne de la même thèse. C'est un roman. Hein, ce n'est pas un écrit historique, mais on nous garantit que ça s'appuie sur une recherche très approfondie, historique, des faits, et qui nous montre, là encore, que Jésus et Marie-Madeleine étaient mariés. Alors, je repose la question, c'est fiction, roman, ou bien est-ce que c'est un documentaire, est-ce que c'est factuel? Alors, l'idée que Jésus et Marie-Madeleine étaient copains-copines, ça nous vient de deux évangiles gnostiques. Et je vais expliquer les termes, on va parcourir un peu maintenant des notions un peu plus techniques, un peu plus historiques. Et si vous ne comprenez pas trop, je comprends, c'est pas toujours facile, donc on reviendra dessus pendant le temps de questions. Mais il y a deux évangiles gnostiques qui l'affirment, l'évangile de Marie-Madeleine et l'évangile de Philippe. Si vous avez en tête le livre de Dan Brown, Dan Brown fait dire à son caractère, l'expert, hein, Tibing je crois, qu'il y aurait à peu près 80 évangiles et que 76 auraient été jetés à la poubelle pour ne retenir que 4 évangiles. Donc ça nous pose la question tout ce vocabulaire des évangiles apocryphes ou des évangiles gnostiques, ce que je vous propose d'explorer. Alors quand on parle de ça, on parle d'évangiles canoniques d'un côté et évangiles apocryphes de l'autre. Sauf qu'il ne faut surtout pas penser que les évangiles canoniques soient liés au canon, dans ce sens-là du terme en tout cas. Ça vient de la notion de règle en grec, canon. Et donc les évangiles canoniques sont les évangiles qui ont servi de règle par opposition aux évangiles apocryphes qui, eux, veulent dire, le terme veut dire caché. Enfin, pas caché aux gens d'ailleurs. Qui parmi vous met des crèches à Noël ? Avec des petits ânes. Là, je prends note, hein, ça devient intéressant. Avec un petit âne, avec un bœuf et tout ça, c'est bon ? Ma femme aussi, hein, c'est insupportable. Pardon, je sais très bien, il n'y a pas de souci. Hein. Ça vient des évangiles apocryphes. Donc, ils ne sont pas du tout cachés dans le sens « il faudrait les cacher ». C'est simplement qu'ils sont, ils ne sont pas mis en avant pour ce qui est de l'ordre de la foi. Mais on les connaît très bien. On les connaît bien, on les lit, on sait d'où ils viennent. Donc, quand on parle des évangiles canoniques, on parle des évangiles qui ont servi aux règles de la foi, et quand on parle des évangiles apocryphes, on parle d'histoires associées à la vie de Jésus, dont je vais parler dans un instant. Ce qui est des évangiles apocryphes, pardon, canoniques, il y en a quatre. L'évangile de Matthieu, qui était un des apôtres, l'évangile de Marc, qui était le secrétaire de Pierre, l'apôtre, et l'évangile de Luc, qui était un collègue de Paul, apôtre venu sur le tard, et l'évangile de Jean, l'apôtre. D'accord ? Vous avez quatre évangiles, je pense que ce sont des notions connues, mais c'est peut-être utile de les rappeler. Quand on parle des apocryphes, par contre, on les classe en trois catégories. Je ne vous ai pas encore perdu ? J'essaye, hein, pourtant, j'essaye, mais... super. En tout cas, il y a trois catégories. Si on regarde, alors, je vous avais dit qu'il n'y en avait pas 80. A priori, si on fait l'ensemble des pièces qui pourraient éventuellement s'appeler évangiles, il y en a 12. D'accord ? 24 au plus. Parfois, c'est des tout petits trucs. Hein. Parfois, c'est des trucs un peu plus élaborés. Il n'y en a pas énormément. Il n'y en a pas une abondance. Et quand on les lit, on peut les classer en trois catégories. Il y a ceux qui sont proches des trois premiers, au point qu'on se dit c'est un peu du plagiat. Enfin, à l'époque, c'était moins important peut-être, mais c'est un peu du plagiat. Parce qu'ils sont vraiment proches. Quand je dis des trois premiers, c'est parce que, juste pour vous donner c'est des mots comme ça, si un jour vous les sortez dans une conversation autour d'un thé ou d'un café, ça va rehausser le débat, vous allez voir. Mais dans ces quatre évangiles, il y en a trois qui regardent à la vie de Jésus de manière assez similaire. Et c'est pour ça qu'on les appelle des synoptiques. Voilà. Les trois premiers sont synoptiques. Quatrième a été écrit beaucoup plus tard et il est assez décalé dans son regard sur Jésus. Il est fascinant. Il est un petit peu décalé par rapport aux trois premiers. Donc quand vous regardez l'ensemble des évangiles apocryphes, il y a une première catégorie d'évangiles apocryphes qui est très proche des trois premiers, des synoptiques. Et puis, il y en a d'autres que l'on qualifie de complémentaires. Pourquoi ? Parce qu'ils racontent des choses que personne ne raconte. Complémentaires, par exemple, est-ce que vous vous êtes posé la question à quoi Jésus jouait dans la cour de l'école ? Il y en a pour qui c'est vraiment important. Pas pour moi, mais pour certains, c'est vraiment important. Les évangiles complémentaires rapportent des événements de l'enfance. Ils sont un peu loufoques, hein, dans ce qu'ils rapportent. Enfin, vous allez voir, hein, c'est un peu loufoque. Mais du style, Jésus fait des oiseaux en terre glaise, puis après, il frappe dans les mains et les oiseaux s'envolent. Enfin, oui, moi, je trouve ça rigolo. Mais voilà. Alors, c'est les évangiles complémentaires. Et puis après, il y a les évangiles dits gnostiques. Gnose, connaissance. Et là, on est vraiment dans une autre religion. Et c'est important de le souligner parce que, et on va voir pourquoi, on est dans un autre monde et dans une autre religion. Bref. Donc, il y a dans ces évangiles, voici les titres des plus importants, des informations intéressantes. Vous vous souvenez, il y a trois catégories, on les classe en trois catégories, les évangiles apocryphes, proches des évangiles, complémentaires aux évangiles, et de religion gnostique. Il se trouve qu'il y a deux évangiles de religion gnostique qui rapporte un rapport particulier entre Jésus et Marie-Madeleine. Et voilà d'où vient l'idée qu'entre Jésus et Marie-Madeleine, il y avait plus qu'une admiration de disciple à un maître. Il y avait quelque chose de romantique. Ça vous dit qu'on regarde ce qu'ils disent, ces évangiles ? Il y avait deux personnes qui ont dit oui, donc on va le faire. Par exemple, l'évangile de Marie dit ceci. Lévi prit la parole. « Pierre, tu as toujours été un emporté.
Je te vois maintenant t'acharner contre la femme comme le font nos adversaires. Pourtant, si le maître l'a rendue digne, qui es-tu pour la rejeter ? Assurément, le maître la connaît très bien et il l'a aimée plus que nous. Et dans le contexte, c'est Marie-Madeleine. Donc voilà la base, la première base de ceux qui disent que Jésus et Marie-Madeleine avaient une relation amoureuse. Parce que, assurément, le maître, Jésus, la connaît très bien, il l'a aimée plus que nous. Vous en pensez quoi ?
En termes de preuves ? Bon, je vous propose qu'on vote. Mais en fait, c'est amusant parce que on voit ce texte-là et on se dit, mais c'est à partir du moment où il y a, en supposant que ce soit vrai, hein, à partir du moment où on dit que lui a aimé elle plus que les autres, il faut forcément que ce soit de l'ordre de la sensualité, de l'amour, du style mariage. Oui, bah oui, moi ce que je dis, c'est que je me dis, c'est un peu, on va loin, on va vite en besogne, non ? Enfin voilà. Voilà une manière de le dire. En tout cas, voilà la première pièce à conviction, entre guillemets, en faveur du mariage de Jésus. La deuxième vient de l'évangile de Philippe. Alors, c'est une découverte extraordinaire, l'évangile de Philippe, parce que c'est un fermier en Égypte qui a trouvé une cruche dans laquelle se trouvaient de nombreux parchemins qu'il a pas mal utilisés, pas vraiment des parchemins, codex qu'il a utilisé pour allumer le four familial, parce qu'il ne savait pas que ça avait beaucoup de valeur. Et il y a quelqu'un qui est passé par là, et qui a dit, je vous rachète tout, le prix, c'est tout ce que vous voulez, je le rachète. Et heureusement, ça a permis que l'on sauvegarde cet ensemble documentaire. Et donc, on a cet évangile de Philippe. Si vous lisez le copte, vous pourrez... Non, il n'y a personne qui lit le copte. C'est vrai qu'on n'apprend plus pour tout ça à la maternelle, hein, de nos jours. Et voilà le texte, ce que dit l'évangile de Philippe. En bleu, c'est ce qui manque dans le manuscrit. C'est un manuscrit très, très abîmé. La Sophia, qui est appelée stérile, est la mère des anges. Et la compagne du Fils est Marie-Madeleine. Le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples, et il l'embrassait souvent sur la bouche. Les autres disciples le virent aimant Marie, lui dirent, « Mais pourquoi l'aimes-tu plus que nous tous ?» Le Sauveur répondit, il leur dit, « Comment se fait-il que je ne vous aime pas autant qu'elle ?» Et on a envie de tourner la page, hein ? Allez, je tourne la page, ça répond pas. Ça passe sur un autre sujet. On revient dessus, donc. Voilà. La deuxième pièce à conviction en faveur du mariage de Jésus, c'est que le Seigneur aimait Marie plus que tous les disciples et il l'embrassait souvent sur la bouche. Alors là, ça devient un petit peu plus compliqué. Bon. Le problème, c'est que, à mon sens, c'est un petit peu... biaisé de lire que Jésus embrassait Marie-Madeleine sur la bouche et d'en conclure, donc, il flirtait. Je vous explique. L'activité du flirt, que je ne vais pas détailler, est une activité éminemment occidentale et qui reflète entre nous, hommes et femmes, un rapport intime de l'ordre de la sensualité. J'étais en Roumanie, envoyé par l'église dans la ville de Iași, près de la frontière russe, et on venait d'arriver après un long voyage, et puis je suis arrivé dans une église, on nous a dit, viens, on va dans une autre église et tu prêches. Alors j'ai dit, ok, c'est typique là-bas, on ne peut pas se préparer, on y va, on y go. Donc on y va, je suis donc précédé du... jeune pasteur qui arrive devant une autre église où il y avait un vieux pasteur qui l'accueille en l'embrassant sur la bouche. Mais alors longuement, hein. Et moi j'étais juste derrière, j'étais en train de passer par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et à mon grand soulagement, quand ils ont eu fini, une demi-heure plus tard, quand ils ont eu fini, il m'a serré la main. Je l'ai serré avec beaucoup de vigueur. Pourquoi je raconte ça ? Parce que, selon les cultures, le baiser signifie d'autres choses. Et ça, entre ces deux hommes, je peux vous garantir, il n'y avait pas de sensualité, mais du respect. Et en Russie, apparemment, dans certaines, c'est une manière totalement légitime entre hommes de manifester du respect. Donc, lorsque l'on lit ce que nous avons lu dans l'évangile de Philippe, il faut s'interroger sur le sens d'un baiser au sein de la culture ambiante. Il se trouve que dans ce genre de culture, il va falloir se poser la question, est-ce qu'embrasser, c'est flirter ? D'autre part, il faudrait se poser la question, est-ce que les évangiles apocryphes sont fiables ? Parce qu'on n'a pas encore vu ça. Et troisièmement, on va se poser la problématique suivante, est-ce que le mariage de Jésus serait un problème ? Parce que la grande idée, c'est que ce serait quelque chose qu'il faudrait cacher. On va se poser la question, est-ce que théologiquement, bibliquement, ce serait un problème ? Et enfin, y a-t-il d'autres traces d'une telle union ? Alors, pour les gnostiques, le baiser est la transmission d'un savoir. Les gnostiques, ce sont des spiritualités qui sont proches de ce qu'on dirait aujourd'hui l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'ils cherchent une initiation particulière qui les place sur un niveau de conscience ou de connaissance supérieur. Et lorsqu'ils sont parvenus à ce niveau-là, ils forment une sorte de caste particulièrement illuminée, éclairée, supérieure aux autres. Dans ce monde-là, le baiser est une transmission de savoir. C'est absolument pas un plaisir. Pourquoi ? Parce que le gnosticisme est influencé par la pensée grecque, platonicienne, qui dit que tout ce qui est matériel est mauvais et tout ce qui est spirituel est bon. Des œufs sur le plat, avec de l'huile d'olive, un petit peu de parmesan, du sel dessus et de la ciboulette, pas bon. Alors pour nous, c'est super bon. Vous voyez ce que je veux dire ? Non, c'était pas une bonne illustration alors. Ce que je voulais dire, c'est que tout ce qui est de la satisfaction des sens dans un monde gnostique est ce qui plombe la vie spirituelle. Et c'est quelque chose que l'on essaye de transcender. L'idée que le plaisir de bécoter, pour reprendre une expression populaire actuelle, que ce plaisir-là soit dans l'évangile de Philippe, est simplement hors contexte, parce que ce serait une faute charnelle. Donc ça n'a rien à voir avec le flirt. Même si l'évangile de Philippe le dit, ça n'a rien à voir avec le flirt. Maintenant, une autre considération parmi les quatre que je veux aborder. Est-ce que les apocryphes sont fiables ? Moi, je dis non. Et pour trois raisons. La première de ces raisons, c'est leur âge. Si vous regardez la rédaction de ces évangiles, les écrits du Nouveau Testament ont été écrits entre... Alors, il y a une guerre de spécialistes sur les questions. Mais, on va dire, à la louche, ont été écrits entre 40 et 96 après Jésus-Christ. D'accord ? Donc, 10 ans au plus, pour les premiers, après la mort de Jésus-Christ. Et jusqu'en 96, puisque l'évangile de Jean serait écrit ou aurait été écrit en 96 après Jésus-Christ. Nous avons des milliers de manuscrits à partir de là qui ont été copiés, que l'on a recensés, qui nous permettent de savoir ce qu'il en est devenu. Lorsqu'on parle des évangiles gnostiques, le premier aurait été écrit, puisqu'on en a trace chez Irénée, aurait été écrit en 170 ans après Jésus-Christ. Mais même si c'est le cas, les premiers manuscrits que nous ayons sont du 4e siècle. Vous voyez la distance qui sépare ces manuscrits de la vie du personnage historique qu'est Jésus-Christ. C'est-à-dire que 2 siècles après, il y a des gens qui disent « Ah oui, alors Jésus et Philippe, c'était comme ça, comme ça. » Moi, ça ne me gêne pas. Enfin, sauf que c'est moins fiable. Si j'avais des documents qui venaient du temps du 1er siècle, ça poserait une pierre dans l'histoire. Mais lorsqu'on écrit 2 siècles après, c'est comme si moi je vous parlais de... Je sais pas, Napoléon, c'est quel siècle ? Oui, c'est pas des noms qu'on aime bien peut-être dans certains contrées. Mais si 2 siècles après je vous parlais d'un personnage, en disant des choses aussi fortes que son mariage, et que j'étais le premier à le dire, ça pose un souci. Deuxième considération, leur dramatisation. C'est assez intéressant de voir, par exemple, qu'il y a un examen gynécologique de Marie. Enfin, Les évangiles sont d'une fiabilité à cause de leur sobriété, les quatre évangiles canoniques. Par contre, on a une manière de raconter les choses qui me rappelle quand on veut en rajouter pour faire comprendre quelque chose. Et enfin, leur ligne éditoriale, si on se pose la question de la manière dont ils parlent de la spiritualité, on est en dehors de la spiritualité biblique, autant la spiritualité judaïque que celle qui deviendra la spiritualité chrétienne. Autre remarque, est-ce que le mariage de Jésus est un problème? Le raisonnement est le suivant, le mariage serait un état inférieur, les relations sexuelles seraient un péché, et c'est vrai que malheureusement ça a été véhiculé souvent dans cette manière, parfois dans certaines branches de l'Église, et que ce serait un péché, sauf pour la procréation. Et donc il serait impossible que Jésus soit marié pour les chrétiens, parce que ça deviendrait problématique. Mais moi je voudrais vous souligner que Dieu est l'inventeur du mariage. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, et que l'homme a vu la femme pour la première fois, en hébreu il a dit « Waouh !» Bon, c'est une traduction très personnelle. C'est très très personnel. Il a dit, cette fois-ci, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera Ève. Bref, Dieu est inventeur du mariage. Il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Il n'y a rien de négatif dans le mariage même. La sexualité est célébrée dans la Bible. C'est pas des choses que je faisais lire à mes enfants, ça, hein. Proverbe chapitre 5, que ta source soit bénie, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce, sois en tout temps enivrée de ses charmes, sans cesse épris de son amour. C'est interdit au moins de 16 ans, ça. Ainsi, pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une courtisane et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Deutéronome 24, 5, interdit aux jeunes mariés de partir à la guerre. La raison, afin qu'il réjouisse la femme qu'il a prise. Et à mon avis, ce n'est pas pour jouer du violon. 1 Corinthiens 7 parle beaucoup de sexualité, bref. L'idée que la sexualité serait quelque chose de négatif n'est pas du tout dans l'Écriture. Ça, c'est l'influence, hélas, de la philosophie grecque sur le christianisme, à partir d'Augustin, entre autres, même si Augustin était un homme remarquable, sur ce point-là, et venant d'un milieu de débauche, on comprend peut-être que le balancier est allé vraiment de l'autre côté, et je crains qu'il ait influencé négativement l'Église, ou l'histoire de l'Église, mais pas, la Bible n'est pas dans cette logique-là. Lorsqu'on parle de Jésus d'un point de vue théologique, nous croyons qu'il est pleinement Dieu et pleinement homme, et dans son humanité, il aurait tout à fait pu se marier, si ça avait été le projet de Dieu pour lui. Et à ce moment-là, un tel mariage serait célébré. Le problème, c'est que ça laisserait des traces. Qu'en disent les proches? Qu'en disent ses ennemis? L'apôtre Paul écrit, « N'aurions-nous pas le droit d'être accompagnés par une épouse chrétienne comme les autres apôtres? Et les frères du Seigneur? Et Pierre ?» Les apôtres étaient tous mariés, enfin, peut-être pas tous, mais en tout cas, les apôtres étaient mariés, ceux qui sont mentionnés ici. Les frères ou demi-frères de Jésus, c'est-à-dire que je crois que la Bible nous rapporte que Marie a eu d'autres enfants, mais cette fois-ci avec Joseph, et ils étaient mariés. Imaginez un instant, si Jésus avait été marié, qu'est-ce que Paul aurait cité comme exemple? Ben, il aurait cité celui de Jésus. Attends, moi j'ai le droit de me marier aussi, hein? Jésus, il était marié. Mais il ne le dit pas. Il dit, les autres apôtres, ils étaient mariés, je pourrais me marier, moi. C'est quoi ce problème que vous avez à mon encontre? On ne sait pas si Paul était veuf ou peut-être divorcé. Même la famille de Jésus est décrite. Dans l'évangile de Matthieu, il se rendit dans sa patrie et se mit à enseigner dans leur synagogue, de telle sorte qu'ils étaient étonnés et disaient « Mais d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-il pas Marie? Et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui vient donc tout cela ?» Remarquez, il manque un membre de la famille. Ben, sa femme. Mais justement, ça n'en parle pas, parce qu'il n'était pas marié. Un professeur de théologie remarque, « J'ai dans mon bureau 38 volumes rassemblant les documents de l'Église primitive, chacun composé de plusieurs centaines de pages de deux colonnes, écrits en petits caractères. Que de cet amas, on ne tire que deux indices, donc l'évangile de Marie, l'évangile de Philippe, que deux indices qui puisse être mise en avant comme des traces anciennes de cette théorie, montre à quel point elle est tellement improbable. Alors, je ne sais pas quelle conclusion vous aurez hein, de ce parcours un peu des arguments, et encore une fois, dans le respect, on peut tout à fait avoir un avis différent, mais il me semble que les arguments penchent en direction de la non-fiabilité du mariage de Jésus et de la fiabilité de sa source libre, enfin, du fait qu'il n'était pas marié. Ce qui est d'ailleurs me permet d'enchaîner avec la question du « et alors ?» Ça change quoi, finalement? Et c'est là où je voudrais plus terminer mon exposé. Je peux encore utiliser 5-6 minutes? Ça nous aura donné... Ouais, on a une demi-heure, là. Un peu plus, 35 minutes. C'est bon? Je termine? Parce qu'en fait, Jésus est venu avec un objectif particulier. Alors, là, je parle aussi en tant que pasteur, croyant, quelqu'un que Jésus a touché un jour. J'avais 18 ans quand j'ai découvert l'Évangile. Et je suis passionné, alors... Pardonnez si cette passion va se manifester un peu dans cette présentation de la foi. Dans la perspective biblique, Dieu regarde notre humanité. Et elle n'est pas brillante. Enfin, je ne sais pas si vous serez d'accord avec ça. Je n'ai pas que des bonnes nouvelles ce soir. Hein. On va tous mourir. Elle n'est pas brillante. Il y a de l'égoïsme, il y a de la violence, il y a des choses terribles. Mais Dieu aime ce monde. Il l'a créé. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas un accident. Et donc, il décide de remédier au problème du mal. Mais il décide de le faire en deux étapes. La première étape, c'est pas de régler toutes les guerres. Parce que s'il réglait toutes les guerres, il réglerait tous les menteurs. Et s'il réglerait tous les menteurs, il n'y aurait plus personne sur Terre. Donc il fait en deux étapes. Il n'y a pas de paradis imposé. Il vient changer les cœurs d'abord. Et un jour, peut-être ce soir, peut-être dans 1000 ans, personne ne le sait, tous ceux qui le disent sont des charlatans. Un jour, il reviendra régler vraiment le problème collégial de l'humanité en revenant imposer son règne à ceux qui l'auront reconnu comme leur vie. Et dans un texte, que je voudrais évoquer avec vous, Jésus dit la chose suivante. Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. » Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car mes paroles ne viennent pas de moi, mais le Père qui m'a envoyé m'a commandé lui-même ce que je dois dire et ce dont je dois parler. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont je parle, j'en parle comme le Père me l'a dit. Voilà le scénario qui se présente à nous. Jésus est vraiment le miroir de Dieu. C'est-à-dire que Dieu regarde ce monde et dit, mais ils sont incapables de m'entendre et de me comprendre, moi je viens en chair et en os. Et Dieu le Fils devient le Fils de l'homme. Il devient l'un de nous, il devient comme nous. Et il dit, celui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé, et celui qui me contemple, contemple celui qui m'a envoyé. C'est incroyable ce que Jésus dit. Enfin, c'est incroyable, mais c'est fort ce que Jésus dit. Vous imaginez, j'entends parfois des gens dire, mais Jésus c'était un grand maître. J'ai un problème avec ça. Croyez-vous qu'un grand maître puisse tenir ce genre de propos? Imaginez que moi je vous tienne ce genre de propos. Vous m'enverriez où? C'était direct, hein. Merci. Mais vous auriez raison. N'est-ce pas? Un illuminé de plus, un illuminé de plus. C'est-à-dire que quelqu'un qui tiendrait ce genre de propos ne mérite pas d'être écouté, sauf s'il est vraiment cela. Et Jésus se présente comme le miroir de Dieu. C'est pour ça qu'il n'est pas venu sur terre pour se marier, hein. Il est venu sur terre pour une autre mission. Non seulement il est le miroir de Dieu, mais il est la lumière des hommes. Et là encore, le propos est énorme. Moi, la lumière, je suis venu dans le monde afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ténèbres spirituelles, ténèbres humaines. Moi, je vois comment mon cœur est dur. J'aime beaucoup ma femme, hein, mais quand mon cœur est dur, parfois égoïste. Je peux dire, mais il y a quelque chose de ténébreux dans l'être humain. Et Jésus vient pour qu'on puisse en être extrait, en quelque sorte. Et puis, il est témoin d'un jugement qui vient, parce que le paradis n'est pas pour... n'est jamais imposé, il est juste proposé. Et Jésus vient pour en parler, pour dire, moi, j'ai un commandement. Et c'est ce qui est proposé plus loin. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Ainsi, ce dont j'en parle comme le Père me l'a dit. Voici ce qui m'a beaucoup touché dans le christianisme, c'est que s'agissait d'une relation, je l'ai évoqué tout à l'heure, Dieu vient sur terre pour tendre la main, et il propose aux êtres humains de la saisir, et de connaître en cela une nouvelle naissance, quelque chose de radical et d'intérieur qui les bouleverse et qui s'apparente vraiment à un sauvetage. On est très familier dans le monde chrétien du mot salut. Je trouve que le mot sauvetage est bien plus approprié en quelque sorte. Parce qu'on est vraiment dans une situation assez périlleuse. Et ce dont il est question quand on parle du mariage de Jésus, c'est surtout de sa crédibilité. S'il est juste le prophète du coin d'il y a 2000 ans, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres, c'est pas grave. Mais s'il est vraiment qui il prétend être, notre avis sur Jésus devient quelque chose de très important. Je termine avec une image. Vous reconnaissez ? C'est qui ? Le penseur de qui ? Ouais. Moi, souvent, je vous avais dit que j'étais pas un adepte de l'art, donc je savais pas. Mais souvent, je me suis demandé à quoi il pense Rodin. Enfin, le penseur. Zut ! J'ai oublié mes chaussettes. D'ailleurs, il n'y a pas que ses chaussettes qu'il a oubliées. À quoi il pense ? Et j'ai découvert que cette merveilleuse pièce se trouve au-dessus d'une porte qui s'intitule « La porte du séjour des morts ». Et en fait, c'est une toute petite partie de la statue, le penseur. Il est là. Cette porte fait 2 mètres de haut, et en dessous du penseur, il y a l'enfer et le paradis. Ah ! Maintenant, je sais à quoi il pense, le penseur. Il pense à l'éternité. Il pense à où il va aller. Et c'est vraiment une question qui me semble pertinente, puisque Jésus est là pour inviter à la vie éternelle. Est-ce qu'il est digne de recevoir notre confiance, notre vie, à un moment décisif pour qu'il puisse nous faire renaître ? Il y a un verset, c'est promis, je m'arrête là-dessus, qui dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui le dit. Il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est assez extraordinaire. Hein? Il n'y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes par la grâce. Alors qui est Jésus selon vous ? La réponse elle est vraiment importante. Et je vous remercie de votre attention.